Bonne nouvelle, grand comédien. Une émission de Patrice Galbeau. Avec Simone Renan.
J'ai choisi cette nouvelle de Maurice Renard qui est à la fois fantastique et très émouvante. Maurice Renard était un peu oublié ces temps derniers, mais on va pouvoir le relire maintenant. Et je crois que l'on sera très touché, très intéressé par les mondes prodigieux qu'il sait faire vivre sous nos yeux. Cette nouvelle s'appelle « L'image au fond des yeux ». Avant d'ouvrir la porte, le docteur Fagus prit un temps et rêva l'espace d'une seconde. Il savait que derrière cette porte, dans le salon, un personnage considérable l'attendait. Robert Arcier, homme puissant et richissime, surnommé le roi du cuivre. À cette époque, Fagus n'était pas encore célèbre. Sa renommée commençait seulement à s'étendre dans les milieux médicaux. Les aveugles des cinq parties du monde ne connaissaient pas son nom comme ils le connaissent aujourd'hui. Fagus n'était alors qu'un oculiste distingué, et si quelques maîtres appréciaient sa valeur, d'autres parlaient de lui avec dédain, lui reprochant le péché de psychologie. Cependant, le roi du cuivre était là, derrière la porte. Il avait écrit à Fagus comme le premier venu pour lui demander une consultation. Et Fagus ne pouvait s'empêcher d'y rêver. Car selon lui, jamais le présent n'avait séparé aussi nettement le passé et l'avenir. Il ouvrit la porte, le milliardaire entra dans son cabinet. C'était un gentleman correct de 30 à 40 ans. Fagus remarqua son air de lassitude, ses rides douloureuses. Et il se rappela tout de suite que la puissance industrielle d'Arcier n'était qu'un héritage. Le roi du cuivre tenait sa couronne d'Arcier le père, Arcier le parvenu, qu'il avait conquise à la sueur de son front. Robert, lui, n'avait rien d'un lutteur. Naturellement, l'attention de l'oculiste se porta sur les yeux du nouveau venu. Quels yeux ! Ils se tenaient ouverts si largement et si fixement qu'il faisait penser à des yeux d'oiseaux nocturnes ou, et ce qui est plus effrayant, à des yeux de verre. Une horreur perpétuelle les habitait. Tout ce qu'Arcier regardait semblait l'épouvanter, tout, sans excepté Fagus. Et pourtant, l'homme de science n'était rien moins que terrible. Il avait compris qu'un être misérable se tenait devant lui, et toute sa belle âme était sur son visage. Arcier parla. « Je n'ai plus d'espoir qu'en vous. Sauvez-moi !» Les bras pendants, les mains ouvertes, il paraissait désespéré. « Voici, » continua-t-il en faisant violence et comme s'il confessait une faute. « J'ai dans les yeux, au fond des yeux, une image indélébile. » Une image comme celle qui reste imprimée sur la rétine quand on a fixé le soleil. « Scotome, » dit Fagus. « C'est cela. Une image pareille à celle qu'on trouve aux yeux des assassinés, aux yeux de ceux qui sont morts de mort violente, et dont la rétine a conservé la dernière vision. » Fagus ne sourcillait pas. « Vous ne ricanez pas, s'étonna le milliardaire. Vous ne vous moquez pas de moi ?»« Non, » dit Fagus. « Ah !» fit Arcier dont les traits se détendirent. « Si vous saviez combien j'ai rencontré d'incrédules parmi les oculistes à qui je me suis adressé, pas un n'a compris, pas un ne m'a cru, et ils n'ont rien vu dans mes yeux. Les uns se sont joués de moi, d'autres m'ont envoyé au neurologue. Pauvres gens. Écoutez-moi, docteur. Examinez-moi bien et dites-moi la vérité. Parce que je ne puis continuer à vivre avec cette image au fond des yeux. Je suis condamnée à la voir partout et toujours. Elle s'interpose affreusement entre le monde et moi. Je la vois les yeux fermés, les yeux ouverts, même la nuit. Le sommeil seul la fait disparaître. Mais le sommeil, hélas, je ne l'obtiens qu'à force de soporifiques. Et souvent, je la revois en rêve. Depuis combien de temps cette tache est-elle dans votre œil ? Demanda tranquillement Fagus. Oh, ça n'est pas une tache, c'est une image, une scène instantanée. Rien n'y manque. Décor, personnage, couleur, relief. Et quand je veux regarder n'importe quoi, n'importe qui, c'est toujours l'image qui est au point, non l'objet ou l'être que je voudrais voir et qui ne m'apparaisse que vague et qu'à travers l'odieuse fantasmagorie. Depuis combien de temps, insista Fagus ? Depuis 13 mois. Depuis 13 mois, cette image de damnation me voile l'univers et possède mes yeux. Il faudrait les éteindre pour me guérir. Ah, c'est une rude confession que je vous fais là. Les éteindre, n'est-ce pas ? Et j'étais sur le point d'en finir avec eux quand on m'a parlé de vous. Alors j'ai différé. Les éteindre, dit gravement Fagus. Et si cela ne suffisait pas ? L'autre baissa les yeux, puis les releva craintivement sur le médecin. Je ne puis vivre avec cette image au fond des yeux. Il reprit aussitôt avec quelque stupeur. Il faut que j'aie en vous une confiance qui m'étonne moi-même pour vous dire cela. Je vous demande votre confiance tout entière, répliqua Fagus. Elle m'est indispensable. Dites-moi, l'image, de quelle nature est-elle ? Arcier Biesa. C'est la reproduction d'une chose qui m'est apparue à l'improviste. Un spectacle qui m'a surpris violemment et que j'ai aperçu le temps d'un éclair. Le temps qu'il m'a fallu pour écarter un rideau et m'évanouir d'horreur et de désespoir. Une vision plus insoutenable pour moi que l'éclat du soleil le plus terrible, que l'apparition d'un poignard levé ou d'un revolver braqué. Pendant qu'il parlait de la sorte, ajournant de tout son pouvoir le récit demandé, Fagus le considérait. Arcier faisait face à la fenêtre. Cette fois, il semblait fixer volontairement l'image, la soumettre à son regard. Sa pâleur s'était accrue. Ses traits durcis accusaient davantage leurs rides. Visage de sensuel, d'impulsif, d'émotif. Mais Fagus s'attachait aux yeux. Leurs pupilles ne cessaient de se contracter, de s'épanouir. L'iris était brun, bien pigmenté. Le blanc de la sclérotique tirait sur le jaune et des vaisseaux rouges l'ensanglantaient. Ses yeux étrangement durs et secs, leurs cils longs et touffus les auraient adoucis d'une belle ombre. Si les paupières, rigides et ne clignant jamais, n'avaient semblé tenues par d'invisibles écarteurs. Au-dessus d'eux, les sourcils noirs, dessinés avec force, rejoignaient, ne faisant qu'une seule barre. Visage de nerveux et de jaloux. Cependant, Arcier s'était interrompu. « Mais pourquoi vous décrire l'image ? Si vous êtes plus savant que les autres, vous la verrez peut-être ?»« Soit, répondit Fagus, je vais vous examiner. Mais je vous avertis que l'image, si je la repère, m'apparaîtra minuscule et renversée. Je ne distinguerai sans doute rien. Et puis, je suis peiné de votre méfiance. Pardonnez-moi. Ah, si vous saviez... Tenez, entrez là, dit simplement Fagus. » Ils pénétrèrent dans la chambre noire. « Vous ne mesurez ni l'acuité ni le champ visuel ?» demanda le visiteur. « Non, c'est inutile. Je vois que vous avez l'habitude. Et je ne ferai même pas d'examen latéral. L'ophtalmoscope, tout de suite. » La chambre noire était éclairée par une lampe électrique encapuchonnée d'un réflecteur. Arcier s'assit, tournant le dos à la lampe. Fagus avait porté l'ophtalmoscope à la hauteur de la vue. La lentille concave concentrait dans l'œil d'Arcier les rayons de la lampe et par le trou qui la perçait au centre, Fagus scrutait cet œil baigné de lumière. Il y eut un silence. L'opérateur examinait les deux yeux tour à tour. Sa physionomie restait impénétrable. Il entendait le cœur d'Arcier battre à grands coups. Sans se presser, Fagus saisit une loupe et en doubla l'ophtalmoscope. Arcier demanda « Vous ne voyez rien ?» Pas de réponse, l'examen continuait. Enfin, le docteur se leva et se mit à marcher. Puis, il s'accouda sur une table, les mains au front. Arcier répéta « Rien ?» Toujours muet, Fagus fouilla dans un coffret, en retira une ampoule électrique et remplaça la lampe incolore par une lampe rouge. « Ah, ça c'est nouveau, fit Arcier. » L'examen reprit à la loupe. « Je vois, fit Fagus. » Un cri de joie étouffé lui répondit, mais il poursuivit. « Je vois l'image en négatif. Un scotum affecte votre pourpre rétinien. » La lumière, une intense lumière, a décomposé votre macula lutea, au point sensible de votre rétine, absolument comme une plaque de photographie, enfin je veux dire d'une façon persistante, car pour qu'il y ait vision, il faut qu'il y ait décomposition du pourpre. Seulement dans le cas d'une vision ordinaire, le pourpre se régénère instantanément, tandis que dans le cas d'un scotome, il reste décomposé, quelquefois pour quelque peu de temps, quelquefois pour toujours, je sais, mais dites, vous voyez l'image, bien vrai? Ah, béni soit cette lumière rouge, et béni soyez-vous. C'est extrêmement curieux, murmurait Fagus. Vos yeux ont fonctionné exactement comme une jumelle stéréoscopique. C'est bien une image photographiée. J'aperçois la courbe d'un rideau soulevé sur un espace brillamment éclairé. Je vois... Assez ! Non, non, taisez-vous ! Arcier se cachait les yeux dans les mains. La clarté rouge lui prêtait une lividité crayeuse. Il dit encore d'une voix rauque. Elle et lui, vous et moi, nous sommes seuls à connaître cette abjection. Comprenez-vous maintenant qu'il faut que cette image disparaisse, même si je dois disparaître avec elle ? Fagus le poussait hors de la chambre noire. Eh bien, reprit Arcier, eh bien... Fagus parla. Dites-moi d'abord ce qui s'est passé aussitôt. Elle s'est enfuie, répondit Darcier en se retournant. Non, je veux dire ce qui vous est arrivé à vous, aussitôt après l'apparition. Je suis tombée comme une masse. On m'a trouvée sans connaissance. Le lendemain, quand je suis revenue à moi, l'image était là. Après, j'ai cherché toutes les diversions. J'ai essayé de travailler, de prendre moi-même la direction de mes usines, de mes affaires. Puis j'ai voulu me distraire. Je me suis jetée dans la fête plus follement que jamais. J'ai pratiqué furieusement les sports les plus durs. Oh. Mais j'étais déjà blasée sur tout cela. Et me voici. Et je suis seule sur la terre avec cette image au fond des yeux. Depuis 13 mois, elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi vivante. C'est à croire qu'en m'avançant, je vais pouvoir la toucher, saisir, frapper. Arcier tendait des mains frémissantes. Ses yeux secs reflétaient une douleur aiguë. Docteur, demandez-moi tout ce que vous voudrez, mais faites l'impossible pour effacer cela. Fagus dit comme s'il n'avait pas entendu. Nous allons essayer d'un traitement, et j'ai bon espoir. Je crois que vous guérirez. Mais il faudra que vous veniez à l'hôpital où j'assure le service d'ophtalmologie. J'ai là-bas une installation, un dispositif de ma façon qui m'a déjà donné d'excellents résultats et que j'agencerai pour vous, d'une manière toute spéciale. Nous commencerons demain, si vous voulez, le plus tôt possible. Venez à 10 heures. Je vous demanderai 20 minutes, soir et matin. Pendant combien de temps ? Ah, ça ! La face d'Arcier se colorait d'une chaleur inusitée. Dès qu'il fut parti, Fagus se fit conduire à l'hôpital. Le lendemain, un peu avant 10 heures, une limousine d'un luxe sobre s'arrêtait devant l'hôpital. Arcier en descendit. Un interne en blouse blanche vint le chercher. « Le docteur Fagus vous attend. Suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît. » L'interne guida le milliardaire parmi les détours de l'immense établissement, vieil hospice sur le point d'être rebâti selon le principe de l'hygiène moderne. Chemin faisant, l'interne s'excusait de la vétusté du lieu. C'était l'heure de la visite. L'odeur des antiseptiques emplissait l'atmosphère. Il croisait des infirmières et des sœurs vaquant à leur besogne quotidienne. Arcier ressentait là l'étonnement des riches, qui sont toujours désagréablement surpris lorsque l'occasion leur montre dans la vie des pauvres le côté collectif. Être malade à la douzaine, soigner en gros, mourir en série. « Ah, c'est pitié, disait l'interne, d'être aussi mal logé que nous le sommes. Le service du docteur Fagus est incroyablement resserré. Vous allez voir, monsieur, sa nouvelle installation. Ah, comme c'est petit et mal commode. Tenez, nous y voici. » Il venait d'entrer dans une longue salle toute blanche où de petits lits étaient rangés de part et d'autre, ménageant une allée au bout de laquelle on pouvait lire sur une porte, en grosses lettres écarlates fraîchement peintes, « Ophtalmologie » et au-dessous, « Docteur Fagus ». L'interne frappa et dit à voix haute, « C'est monsieur Arcier, maître. » Au bout d'un instant, la porte s'ouvrit et Fagus, paraissant, remit aux mains de l'interne une femme dont les yeux étaient cachés par un bandeau. « À vous, monsieur, » dit le docteur. Arcier se vit encore dans une chambre noire. Mais celle-ci différait de toutes les autres. Dans ce cube d'un noir mâtre, on se serait cru à l'intérieur d'un appareil photographique gigantesque. Au milieu du mur, opposé à la porte, une espèce de réduit cylindrique s'enfonçait dans l'ombre comme vers quelque objectif colossal. Sur la prière de Fagus, Arcier s'assit au centre de la cabine, devant l'orifice du large tube. L'obscurité se fit. Un déclic se fit entendre. Et ce qui se montra tout à coup fut un disque d'une douce blancheur projetant un faisceau lumineux. « Regardez simplement, » dit Fagus, « mais sans interruption. Quelle est cette lumière ? C'est un secret pour quelque temps encore. » Sachez seulement que ce ne sont pas les rayons visibles qui opéreront. Continuez à regarder. Laissez la gerbe baigner vos yeux. Pas de raideur. Détendez-vous. J'essaie, dit Darcier. Et le malheureux fixait le petit soleil où s'inscrivait pour lui l'image impitoyable. La première séance prit fin au bout d'un quart d'heure. C'était là tout le traitement auquel Arcier devait se soumettre 2 fois par jour. Il revint dans l'après-midi. On le conduisit encore à la porte de la petite chambre noire, mais une sœur, tout de blanc vêtue, lui dit « Monsieur, le docteur Fagus est occupé avec un autre patient. Il vous faut attendre. Mais vous pouvez rester ici, ne craignez rien. Oh, nos petits malades ne sont pas contagieux. Ce sont des enfants scrofuleux. Voulez-vous une chaise ?» Robert Arcier était de ces rois qu'on ne fait pas attendre. Un peu interloqué, il accepta le siège et la sœur le quitta. Il la suivit du regard. Elle allait d'un lit à l'autre. Il ne remuait guère ses lits et la tranquillité de la salle devenait émouvante quand on pensait qu'il y avait là 20 petits-enfants. Arcier avait toujours eu horreur des enfants à cause de leur turbulence. Il ne comprenait pas cette tranquillité. Dormait-il ? Mais justement, quelqu'un troubla le calme. Un gémissement s'élevait. La sœur glissa rapide. Arcier s'approcha et vit alors ce qu'il n'avait jamais vu. Un enfant souffrir. Le pauvre petit avait une figure toute maigre. Il ouvrait des yeux immenses, d'une profondeur inimaginable, et la souffrance lui donnait un air grave et désespéré. « Maman, maman !» gémissait-il. La sœur se faisait maternelle. « oh oui, c'est encore cette vilaine jambe. Ça va passer. » Mais le petit pleurant de grosses larmes n'écoutait pas. Arcier observait cette douleur avec stupéfaction. Il était là, les mains jointes. Oh, ma sœur, oh, celui-là n'est pas le plus à plaindre. Mes petits malades vous intéressent, monsieur ? L'enfant s'étant calmé, Arcier suivit la religieuse qui continuait sa tournée. Elle lui nomma ses enfants un à un. Certains étaient infirmes irrémédiablement, d'autres mourraient bientôt. Il paraissait le savoir et songer au bonheur qu'il ne connaîtrait pas. Arcier, le cœur gonflé de compassion, n'osait leur parler. Il y avait en eux on ne savait quoi de divin qui l'intimidait. Que leur dire à ces petits qui fut assez grand, assez beau? Un appel retentit. « Monsieur Arcier, à vous !» Arcier reconnut la voix de Fagus. « Pardon, ma sœur, » fit-il, « à tout à l'heure. » Le disque de lumière surgit au fond du tube noir. Dans l'ombre adoucie, Fagus surprit un mouvement brusque. « Qu'y a-t-il » interrogea-t-il. Arcier ne put parler qu'au bout d'un instant. L'image avait pâli. Le jour suivant, Arcier fut en avance. Il portait avec lui un grand sac de voyage. Il ouvrit le sac et fit voir à la sœur ce qu'il contenait. Oh, oh, comme ils vont être heureux, monsieur. Heureux, ils le furent en effet, presque tous. Quand le milliardaire eut achevé le tour de la salle, chacun avait reçu un jouet. Et Arcier ne se lassait pas de contempler la transfiguration qu'il venait d'opérer. Cependant, certains petits restaient indifférents. Les uns maniaient leurs beaux joujoux comme s'ils n'avaient pas compris. D'autres semblaient déjà sortis de ce monde. Arcier s'en fut au chevet de l'un d'eux. L'enfant sévère tournait, retournait et palpait de ses doigts grêles une miniature de moulin à vent. Le pauvre homme ne savait comment s'y prendre pour l'égayer. Il était gêné aussi par ce respect que tant de souffrances lui imposaient. Il avait peur de ne pas savoir parler à cet enfant, si fragile, et il tremblait de briser quelque chose en lui par maladresse. Il fit un grand effort de mémoire, s'enhardit et tout bas. « Il était une fois, dit-il, un meunier. » L'enfant se mit à le considérer attentivement. Il poursuivit, « Un meunier qui n'avait pour tout bien qu'un moulin, un âne et un chat !» lança derrière lui une voix chaude. Arcier se retourna et vit Fagus qui souriait. « Allons, monsieur, » fit celui-ci, « continuez le chaboter. Vous viendrez ensuite me retrouver, j'ai le temps ce matin. » Ce jour-là, l'image pâlit encore. Ainsi s'écoulèrent les semaines qui suivirent. Arcier faisait deux parts de ses séjours à l'hôpital, l'une consacrée au petit malade, l'autre à son traitement. Mais bientôt, sa pitié devenue charité agrandit son domaine. Des enfants, elle s'étendit aux autres malades qu'il voulut visiter. Et cet homme, à qui un abîme de supplice venait de se révéler, s'ingéniait de toute son âme à secourir tant de misère. Au demeurant, il avait besoin de manifester par des actes la reconnaissance dont il débordait, car de jour en jour l'image allait s'affaiblissant. La lumière du disque merveilleux semblait la ronger petit à petit. Elle se décolorait et s'estompait progressivement. À certains moments, par exemple, dans l'éclairage de la chambre des petits, quand Arcier leur contait peau d'âne ou cendrillon, l'image n'était plus visible. Pour la revoir, il fallait qu'il y pensât. Peau d'âne et cendrillon, il les avait rapprises. Oh, bien plus, il avait imaginé maintes histoires appropriées à chacun de ses petits amis, car à présent il les connaissait tous en particulier et pouvait leur parler du papa, de la maman, du frère, de la sœur, et pour qui sa bourse inépuisable s'était ouverte. Hélas, hélas, les contes merveilleux étaient parfois sans force contre la souffrance et le destin. Il y avait un enfant, un surtout, qui désolait Arcier. Celui-là, rien ne pouvait le tirer de son silence poignant. Rien. Et Arcier, qui aurait voulu tant faire pour le sauver, ne savait que lui prendre la main et le regarder longtemps, pour bien lui prouver qu'il n'était pas tout seul ici-bas, qu'il y avait quelqu'un pour le secourir et qu'on l'aimait très tendrement. Or, une après-midi, pendant que la sœur renouvelait les compresses de ses plaies, Arcier, qui tenait sa petite main, vit s'assombrir encore les yeux du petit. La sœur, avertie des choses de la mort, s'écarta et se signa. L'homme, effaré, l'interrogea d'un regard. Elle priait. Arcier, ayant compris, ne bougeait pas. Une peine infinie le serrait à la gorge. Il ressentit aux tempes une forte douleur. Sans quitter la main du petit, il appuya son front sur le lit. Puis, comme au jour du chaboté, une voix s'éleva. Pauvre petit. Et Fagus lui toucha l'épaule. Arcier se redressa. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Venez-vous, » dit Fagus en indiquant la chambre noire. « Alors !» Et quand Fagus raconte l'histoire, il affirme qu'il n'oubliera jamais cela. « Alors, il vit Arcier, avec ses yeux noyés de pleurs, s'efforcer de regarder dans le vide, comme pour y chercher quelqu'un qui eût disparu par enchantement. » Il s'essuya les yeux, les frotta, battit rapidement des paupières pour s'éclaircir la vue. Il finit par se tourner vers Fagus, et il ressemblait, on ne sait comment, à un personnage de vitrail, un radieux miraculé. Fagus lui tendit la main, sachant ce qui venait enfin de se produire. Les larmes, tout est là, voyez-vous. Les larmes, objecta Arcier. Les larmes et votre lumière merveilleuse. Ma lumière, dit Fagus. Je n'ai jamais rien vu dans vos yeux. Ma lumière, c'est la lumière, tout simplement.
C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien, une émission de Patrice Galbeau. Simone Renan disait un texte de Maurice Renard, L'image au fond des yeux. Réalisation Bronislav Horovic, première diffusion sur France Culture le 28 décembre 1971. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr.